Icons.
Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Je suis en compagnie de Rémi Cordonnier. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien ?
Très bien.
Et Thomas ?
Bonjour à tous.
Un de mes collègues. Alors, nous allons parler du coup de votre métier, donc qui est responsable des fonds des livres anciens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, alors la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer a la grande chance de posséder une collection de livres anciens importante, plus de 17 000 volumes, qui sont conservés en plus dans un écrin hors norme, cette salle du patrimoine, la bibliothèque patrimoniale, qui est en fait installée dans une ancienne chapelle dans laquelle on a réinstallé les boiseries 18e de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Bertin. Donc on a vraiment alors maintenant, c'est la comparaison, c'est Harry Potter, mais avant, c'était souvent la Belle et la Bête. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de type de bibliothèque qu'on peut avoir avec les grandes échelles roulantes, 6 mètres sous plafond, 1 km de rayonnage.
C'est très impressionnant quand même.
Un bel endroit. Et donc, j'ai la lourde charge de gérer cette partie de la collection.
On a parlé tout à l'heure et vous m'avez dit que du coup, il y avait deux parties patrimoniales.
Oui.
Patrimoniales, pardon. Alors, il y avait une collection de livres de 1830.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, effectivement, la collection patrimoniale, c'est-à-dire à vocation de conservation, c'est-à-dire qu'on a pour obligation de conserver dans le temps, c'est le principe du patrimoine, pour que ça soit transmis aux générations futures, à la bibliothèque, elle se divise en deux grands ensembles. Le fonds ancien proprement parlé, donc tous les livres antérieurs, donc avant 1830, et une collection postérieure à 1830, qui est un fonds documentaire de conservation que l'on va conserver plus pour sa dimension documentaire, donc qui, elle, est aussi accessible à un peu plus de monde et qui va continuer de s'enrichir, puisque chaque livre, par exemple, qui est publié chaque année et qui traite du territoire audomarois, de la Capso, qui traite de Saint-Omer ou qui traite des collections, on va essayer de l'acquérir pour l'entrer dans les collections et qu'il soit consultable dans les années qui viennent, pour les siècles qui viennent. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et donc le tout, si on cumule les deux collections, c'est plus de 35 000 volumes.
C'est quand même beaucoup.
Un sacré chiffre, ouais.
Ouais.
J'ai appris également qu'on pouvait recycler les livres.
Et oui, quand un livre a fini sa vie, alors pas les livres patrimoniaux, parce que les livres patrimoniaux, on ne va pas les recycler, on va les restaurer s'ils sont abîmés. Mais effectivement, des livres contemporains de lecture publique qui ont beaucoup servi et qui sont usés, on va les remplacer. Et les livres détériorés vont être transformés à nouveau en matériaux pour fabriquer de nouveaux livres.
Eh ben, c'est très intéressant, je ne savais pas du tout. Thomas, tu le savais ?
Non, pas du tout, je vous avoue. Après, j'aurais une petite question. Le livre le plus ancien que vous aviez, est-ce que vous sauriez nous dire combien de temps il date ?
Alors, je peux vous le dire. Avec des livres de cette ancienneté-là, on est à 50 ans près. En gros, c'est un livre qui a été copié dans la deuxième moitié du 8e siècle. Donc, on est dans les années 750, entre 750 et 790. Voilà, à l'abbaye de Saint-Bertin, puisque l'abbaye de Saint-Bertin existe depuis l'époque du roi Dagobert. Donc, depuis le 7e siècle.
Et ben,
on s'imagine pas des dates aussi anciennes.
Vous avez... Ouais, Saint-Omer est une très vieille ville.
Ça peut choquer un petit peu.
Et donc, ces livres, ils restent dans la bibliothèque, ils sont bien conservés, et on fait une étude peut-être dessus ou...
Oui, alors...
Qu'est-ce qu'on en fait exactement, en fait?
Pardon. Oui, effectivement. Alors, c'est des livres qui sont très protégés parce que, déjà, ils appartiennent à la nation française. Ils sont sur le territoire audomarois, mais ils appartiennent à l'État français et à tous les Français. Donc, on est obligé de les conserver et de les maintenir en bon état autant que faire se peut. À ce titre, donc, on ne peut plus les consulter comme on consulterait un livre de lecture publique. On ne peut alors certainement pas les emprunter, sauf si on est une institution publique qui décide, par exemple, de faire une exposition. Là, on vient de prêter, ils sont revenus là depuis deux jours, mais on avait prêté deux manuscrits anciens, d'ailleurs un manuscrit carolingien et un manuscrit du XIIe siècle, à l'abbaye Saint-Pierre de Gand, qui a organisé une exposition autour de Judith de Flandre et qui avait besoin de deux manuscrits pour sa scénographie. Donc on leur a prêté, Mais alors ça se fait avec un protocole très particulier. Ils sont convoyés par des professionnels du convoi mandat d'œuvres d'art. Il y a des assurances qui sont prises par les emprunteurs, etc. On a un protocole, on signale. Là, c'était une sortie du territoire français. Donc, il y a un document qui est envoyé au ministère de la Culture pour signaler qu'un des trésors nationaux de la France est parti à l'étranger pendant un temps donné. Et quand il revient, il y a un papier qui est à nouveau envoyé au ministère pour leur signaler qu'il est bien rentré. Voilà, donc c'est très protégé tout ça. Et donc du coup, cette restriction ne doit quand même pas empêcher les Français de pouvoir accéder à leur patrimoine. Donc il y a deux manières de le faire, à travers, enfin même trois, des animations qu'on fait de temps en temps. Il y en a une en ce moment là sur la paléographie médiévale, donc le déchiffrement des écritures anciennes, qui a lieu dans la salle du patrimoine avec une spécialiste et notre directeur, et qui se fait... Alors, à partir des reproductions, mais on leur montre les originaux. Donc, ils vont avoir l'occasion de voir des manuscrits de très près, ce qui n'est quand même pas tous les jours possible, et hors vitrine. Il y a les expositions, où là, les manuscrits sont en vitrine, mais ça vous permet de les voir ouverts, enfin, les manuscrits ou les livres, d'ailleurs, hein, pendant 4 mois. Chaque été, on a une exposition patrimoniale de documents anciens qui sont présentés à la bibliothèque. Et la numérisation, qui permet désormais de rendre accessible sur Internet la totalité d'un livre ancien sans le mettre en danger, puisque alors, on l'aura mis en danger très brièvement le temps de prendre les photos, mais une fois qu'il a été photographié, n'importe qui peut aller voir son contenu.
Ok.
Est-ce que vous avez déjà eu le cas d'un livre qui a été détérioré ?
Oui.
Oui ? Il se passe quoi dans ce cas-là ?
Alors, on essaye de prévenir ce problème-là, mais quand ça arrive, selon le degré de dégradation, en général, il y a toujours moyen de le restaurer. Donc, dans ce cas-là, on va faire appel à une restauratrice. Alors, je dis une restauratrice parce que la nôtre est une femme, mais voilà. Il y a des restaurateurs qui sont spécialisés dans le livre ancien et qui... alors, c'est un métier compliqué, d'ailleurs. Hein, c'est un bac plus 5, très technique. Donc, moi, par exemple, je ne suis pas restaurateur. Hein, je sais faire des petites restaurations parce que notre restauratrice m'a formé à ça, mais les grosses interventions, c'est elle qui s'en charge. Moi, je suis là pour décider quels sont les livres qui vont être restaurés chaque année, de le faire valider par ma direction. Et une fois que ça s'est validé, on rédige un dossier. La restauratrice fait un devis de ses interventions avec des propositions d'intervention. Moi, je fais une fiche de restauration avec une note d'intention, c'est-à-dire que j'explique pourquoi on veut faire restaurer ce livre-là et quelles sont les attentes de la restauration. Rendre le livre plus maniable, limiter une dégradation postérieure ou des choses comme ça. Et elle va venir dire, moi je vais mettre du papier japonais avec de la colle de pâte, avec telle dilution, etc. C'est envoyé au ministère. C'est évalué par un groupe d'experts en restauration qui change régulièrement. Et une fois que tout ça s'est validé, on peut faire l'intervention.
C'est très protégé. Mais si le livre est vraiment plus du tout en état,
on espère que ça n'arrivera jamais.
C'est jamais arrivé encore.
C'est-à-dire que, il y a très très longtemps. C'est-à-dire qu'avant que les livres qui sont dans la collection se trouvaient avant dans d'autres bibliothèques. Hein. La bibliothèque de Saint-Omer, elle existe que depuis 200 ans.
Je voulais parler d'histoire de doublons. En fait, si on réécrivait sur.
Il y a une différence. Entendu, les textes. Par exemple, dans la bibliothèque de Saint-Omer, il n'y a quasiment pas de texte unique ou rare, même dans les manuscrits. Ils ont déjà été copiés à plusieurs reprises. Donc nous, ce qu'on conserve, en fait, c'est un témoignage archéologique d'un texte dans un objet qui est le livre. Donc le livre, on peut l'appréhender, surtout le livre ancien, sous deux angles. L'angle philologique, c'est-à-dire de l'étude du texte qu'il contient, et l'angle codicologique, qui correspond à la matérialité du livre, c'est-à-dire étudier comment le livre a été fabriqué en son temps et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'époque qu'il a vu créer. Donc, pour la philologie, si on perd un témoin, c'est gênant, mais en général, il y en a quand même toujours, sauf si on a vraiment un manuscrit où il n'y a qu'un seul texte, on en a un comme ça, un poème médiéval du XIIe siècle, qui a été édité, donc il est déjà connu, mais la seule copie manuscrite actuellement conservée dans le monde, elle est chez nous. Donc ça, celui-là, on espère ne jamais le perdre. Mais si ça devait arriver, il a déjà été traduit, transcrit et étudié. Donc, on a au moins une trace contemporaine. l'objet livre, chaque livre est une pièce unique. Chaque livre ancien est une pièce unique, surtout les manuscrits. Et donc, si on vient à les perdre, c'est une perte définitive pour
le patrimoine. Ouais.
Pour le patrimoine. D'où l'importance de les conserver et de faire tout pour les conserver dans les meilleures conditions. Et à ce titre, on est en train de travailler, toute l'équipe patrimoniale de la bibliothèque, à ce qu'on appelle notre PSBC, donc notre plan de sauvegarde et d'urgence pour les œuvres. C'est-à-dire que si on venait à avoir une alerte incendie ou inondation, on aura désormais un protocole...
digitalisé.
Non.
Non.
Un protocole d'action.
Ok.
On saura exactement qui doit faire quoi, quand, pour être hyper efficace le plus rapidement possible et sauver un maximum de livres, voire tous si possible. Voilà. C'est très stressant.
Mais c'est le but. Enfin, c'est. Il faut que ça soit stressé ou sécurisé.
Ah bah oui, il faut que ce soit sécurisé. Là, il y en a. Alors, c'est une collection publique, donc elle a plus de valeur marchande.
Okay.
Puisque un bien public n'est pas sur le marché par nature, et quelque chose qui n'est pas sur le marché n'a pas de valeur marchande. Mais on est quand même amené à devoir les estimer de temps en temps, notamment quand on les prête. Parce que l'institution à qui on les prête doit assurer les œuvres qu'elle emprunte. Du coup, l'assurance doit s'établir sur un coût potentiel, c'est-à-dire si le livre venait sur le marché, combien il pourrait coûter. Donc ça, c'est un petit jeu intellectuel, on doit faire des comparaisons, etc. Ce n'est pas toujours évident. Bon, les livres imprimés qui existent par ailleurs, on peut en trouver dans les sites de salles des ventes ou des choses comme ça, mais pour des manuscrits médiévaux, c'est très compliqué. Et là, pour vous donner une petite idée, les manuscrits qui ont été prêtés à Gand, il y en a un qui était à 750 000 euros et l'autre qui était à 1,2
million. Ah oui, quand même.
Je ne suis pas sûr qu'on ait tous ça comme argent. Hein.
Non, et puis de toute façon, comme je vous dis encore une fois, c'est juste pour... Bon, c'est parce que ça impressionne, on le dit, mais encore une fois, c'est ce qu'on appelle les valeurs putatives, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas réelles, qui sont juste potentielles et qui ne sont pas nécessairement vraies, parce que tout dépend... Enfin, comme ces livres ne seront jamais vendus, on ne peut pas le savoir. Mais on sait que si on venait à perdre ces volumes-là, dans le cas de l'exposition, l'assurance devrait nous permettre de au moins compenser la perte par l'acquisition d'un volume, on va dire, d'intérêt a priori équivalent. Mais ça ne sera jamais complètement le même, puisque un manuscrit, encore une fois, est une pièce unique. S'il est perdu, c'est définitif.
Eh bien, en tout cas, vous avez l'air très passionné.
Oui, j'aime ce que je fais. J'ai la chance de vivre d'un métier de passion.
Quelles sont vos missions ?
Alors, les trois missions principales d'un responsable de collection patrimoniale en bibliothèque, c'est la conservation, comme je vous l'ai dit, donc conservation préventive et curative, le signalement des collections, pour que n'importe qui puisse aller sur nos catalogues et savoir précisément ce qu'on a dans les collections, et la mise en valeur, pardon, donc qui a pour but de permettre un maximum de monde de s'approprier ces collections et d'en tirer un bénéfice intellectuel ou de plaisir.
Eh bien, merci.
Mais je vous en prie.
C'était avec... on est tous ravis de vous avoir écouté.
Merci. Un grand plaisir d'être venu. Merci.
Voilà, merci beaucoup.
Merci, bonne continuation à vous.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
I can't speak.